Bonsoir. Poursuite de la grève à l'enseignement supérieur et universitaire. Pourquoi cette grève se prolonge? Quelles solutions préconiser pour mettre fin à cette situation? C'est le sujet de cette émission Dialogue entre Congolais avec des auditeurs toujours présents par vos réactions depuis Kananga au Kasai Occidental. Rodrigue Kankou Kabongo, vous voulez savoir pourquoi l'État ne parvient-il pas à payer les enseignants? Pourtant, cela figure dans les 5 chantiers du chef de l'État. Ça, c'est ce que vous dites. Par contre, Farouk Matofali de Goma, au Nord Kivu, vous pensez que cette grève n'a pas de sens de se prolonger, car, dites-vous, les délégués des enseignants ont participé à l'amélioration du budget dans la commission économico-financière de l'Assemblée nationale. André Yam, de Lubumbashi au Katanga, souhaite, lui, que le gouvernement trouve des solutions définitives, des salaires des professeurs, au lieu de faire semblant. Toujours selon notre auditeur, le gouvernement alloue des millions de francs congolais pour des cartes prépayées des ministres, mais n'a pas de moyens pour payer les professeurs. Pour les discussions ce soir, nous recevons le professeur Albert Kabamba, docteur en sciences, options chimie et physique. Il est président de la dynamique du personnel de l'enseignement universitaire, également président de l'APUKIN, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Nous avons aussi le sénateur Patrice Ezati-Mereko, sénateur PPRD, vice-président de la commission économico-financière de la bonne gouvernance au Sénat. Nous avons tenté en vain d'avoir le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous voulions aussi avoir Anissé Kuzunda Mutandjiji. Il est député national, mais ils ont une réunion en ce moment avec le Fonds monétaire international, du moins les délégués du FMI. À tous, nous disons bienvenue dans cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi, de 14h à 20h, heure de Kinshasa, au 099-899-222.
Poursuite de la grève à l'enseignement supérieur et universitaire, pourquoi cette grève se prolonge? Un des professeurs en grève, Denis Nzokantou, de l'IFASIC, Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, il dit pourquoi il est en grève. On l'écoute au téléphone d'Anselme Sissimoumbéré.
Les causes de cette grève sont de désordre principalement. Le premier ordre, c'est celui, le professeur ordinaire qui est le sommet de notre profession, à moins, en termes de salaire, je ne parle pas de primes, qu'un huissier de la fonction publique. Donc le professeur ordinaire doit avoir aux alentours de 32 000, alors que le huissier doit être autour de 35 000. Et ça, c'est, aucune société ne peut supporter ça. Ça, c'est sur le plan salarial. Nous revendiquons notre statut à nous. Donc, on ne doit pas nous confondre avec la fonction publique. Deuxième cause, c'est l'importance même de ce qu'on accorde au corps académique, scientifique, administratif de l'enseignement supérieur, qui est, comme vous le savez, je l'espère, insuffisant.
Et comme vous pouvez l'imaginer, les principales victimes de cette grève, ce sont les étudiants. Jonas Ngalamouloumé, étudiant en première licence droit et vice-président du conseil étudiantin de l'université de Kinshasa, dénonce déjà les conséquences de cette grève sur le calendrier académique. Il le dit aussi au téléphone d'Anselme Sissimoumbéré.
Les conséquences sont bien réelles parce que maintenant l'année académique ne sera pas suivre son cours normal. On va certainement prolonger l'année. On ne sera pas sur un tempo calendrier académique en vigueur, ce qui n'est pas une bonne chose. Sur le plan académique, il y a une conséquence réelle dans les traitements de résultats pour les étudiants par le fait que la grève a interrompu la session et les moments de défense pour ceux qui s'apprêtent à la défense de mémoire. Vraiment, c'est dur pour ne citer que ces deux faits-là. Vraiment, c'est dur à supporter, mais nous pensons que nous pouvons rester autrement.
Professeur Albert Kabamba, c'est vous qui dirigez la dynamique du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire, et c'est vous qui êtes en grève. Est-ce que vous confirmez les raisons avancées par votre collègue de l'IFASIC pour observer cette grève?
Oui, tout à fait. Je peux confirmer, puis je peux préciser également. Pour que ce soit bien précis. Lui, il a parlé du salaire du professeur ordinaire. Je fois qui équivaut à 32 000 francs ou bien 33 000 francs.
C'est combien à peu près en dollars? Ça peut être 60?
Je crois que c'est 60, quelque chose comme 65, 40 dollars par rapport au salaire de base d'un huissier. Bon, ça c'est quelque chose que nous ne considérons pas hein, au niveau du corps académique. Mais ça fait fâcher effectivement. Ça c'est la confusion tout simplement qu'on a entretenue dans ce pays. Le fait de confondre le statut spécial de l'enseignement supérieur, du professeur d'université, au statut de la fonction publique.
Professeur, excusez-moi, mais vous dites que vous touchez à peu près 60 dollars comme salaire de base, mais il y a aussi une prime, ce qui fait que vous touchez finalement quelque chose comme 500 dollars.
Oui, oui. Pour les professeurs, c'est un peu plus que 500 dollars. Hein. Ça veut dire qu'il y a le salaire de base et il y a la prime qui amène le professeur ordinaire pratiquement à 650 dollars. Là, c'est réel. Mais lorsque la personne est pensionnée, mais en cas de maladie ou il est retraité, on tient compte de ces 33 000 francs et non pas de la prime. Voilà, il faudrait améliorer normalement la base pour que les gens qui partent en retraite aient quand même quelque chose de consistant dans leur vie.
Donc si on comprend bien, la principale raison de la grève, c'est beaucoup plus pour la base salariale qui est de 60 dollars aujourd'hui, pour le professeur ordinaire.
Non, de l'ensemble, ça veut dire que nous revendiquons tout d'abord la considération hein, de professeur d'université. C'est un métier noble, tout à fait d'accord, mais c'est une élite quand même de ce pays. Par sa carrière et par ses études faites pendant longtemps. Et ce que nous pouvons dire également, les 60 dollars qu'on peut toucher, ça c'est rien. Maintenant, nous pouvons dire, voilà, prenons la prime qui est là, plus le traitement de base, et on fusionne, ça devient une base. Mais il se fait qu'il y a ce problème-là de statut qui est à l'enseignement supérieur, qui donne une grande confusion entre les différents corps. Et qui complique un peu la situation également.
Quel statut vous voulez exactement? Parce qu'il faut que les auditeurs comprennent, et tout le monde qui vous suit. Quel statut les professeurs d'université veulent avoir exactement?
Bon, pour le moment, il y a un projet de loi que les professeurs ont avancé avec l'accord de certains partenaires qui voudraient donner au professeur d'université sa base élevée, la reconnaissance de son diplôme.
La base élevée d'à peu près combien?
Moi, je peux prendre, par exemple, 1000 dollars. Oui. Ça, c'est bien. Ou bien 800 dollars. Ça, c'est un exemple que je donne.
Oui.
Mais il faudrait lui reconnaître ses primes. Ça veut dire ses primes de spécificité.
Oui.
Il y a la prime de diplôme. Le professeur d'université, c'est un agent de l'État de haut niveau. Il fait la recherche et il donne l'enseignement.
Oui.
Et en même temps, il encadre les hauts cadres de ce pays. Voilà, il y a déjà trois spécificités pour ce professeur-là. Donc, on ne peut pas comparer avec les autres carrières. Ça veut dire que si nous comparons, que ce soit les magistrats, que ce soit les médecins, ont été enseignés par ces gens-là. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'ils doivent avoir un salaire inférieur à ces gens-là?
En gros, ça peut faire combien pour un professeur d'ordinaire, en gros?
Bon, je prends une moyenne pour les pays qui nous entourent, c'est à peu près 4000 dollars. Ça, c'est la moyenne.
Que vous demandez à l'État?
Nous demandons à l'État également. Oui. Ça, c'est une moyenne pour les pays qui nous entourent.
Oui.
Parce que nous avons les mêmes critères d'engagement, de recrutement que les autres pays qui nous entourent. Alors, pourquoi avoir un salaire de 600 lorsque nous allons ailleurs, nous avons un peu plus?
Oui. On va d'abord avoir la réaction de Patrice Ezati-Mérico. Il est sénateur PPRD et vice-président de la Commission économique et financière et la bonne gouvernance au niveau du Sénat. Monsieur le sénateur, nous savons que le projet du budget ne vous est pas encore parvenu, c'est encore au niveau de l'Assemblée nationale, mais comment déjà vous pouvez réagir à ces revendications des professeurs d'université qui continuent à observer leur mouvement de grève?
Merci pour votre question. Comme vous avez si bien dit, je suis Patrice Ezati, je suis sénateur du parti PPRD de la province future de l'Ituri. Alors, ma réaction à chaud sur cette question de grève de secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Le problème des professeurs, tel que j'ai bien suivi la situation, le problème ne se limite pas seulement au niveau des problèmes de salaire. Le salaire, c'est un aspect de leurs préoccupations. D'abord, la reconsidération du métier de l'enseignant au niveau de niveau supérieur et universitaire. Et il est un statut particulier des corps enseignants scientifiques du secteur enseignement supérieur et universitaire. Ramener ces problèmes tout simplement aux dimensions salariales, c'est réduire les problèmes. Mais il faut élever le débat. Ces problèmes tels qu'ils l'ont posé, leur statut, leur reconsidération, je crois que c'est plus de ce côté-là qu'il faut penser.
Et vous pensez qu'ils ont raison, les professeurs, de revendiquer justement la revalorisation de ce statut?
Mais j'estime que dans une certaine mesure, ils ont raison, parce que nous tous, nous sommes leurs produits. Nous sommes leurs produits. Mais ceux qui nous forment, ceux qui nous ont appris à faire des recherches, on ne peut pas les traiter autrement que comme des personnes au rang social considérable. Donc, ils ont raison de réclamer, je ne dis pas qu'ils ont raison de faire la grève, ils ont raison de revendiquer un statut honorable à leur qualité d'enseignant de supérieur et d'université.
Et pourquoi ils n'ont pas raison de faire la grève, selon vous?
Non, la grève, c'est une façon de s'exprimer. C'est une façon de revendiquer ses droits. C'est reconnu par la loi, la grève. Mais pas de grève sauvage. Je ne dis pas que leur grève est sauvage.
Il faut des grèves. Vous semblez le dire.
Pardon?
Vous semblez le dire.
Non, je ne semble pas le dire et je ne le dis pas. La grève, je dis, c'est un moyen légal d'exprimer son mécontentement. C'est pas interdit qu'on fasse de grève. Mais il faut une grève responsable.
Qu'est-ce que vous entendez par grève responsable?
C'est les professeurs doivent grève faire. Responsable, j'entends, il faut une grève autorisée. Il faut que ça se fasse dans la discipline. Il faut que ça s'encadre pour atteindre l'objectif qu'on vise. Bon, si vous voulez voir l'aspect budgétaire de leur réclamation, c'est vrai. Le budget 2008 n'est pas encore parvenu au Sénat, mais c'est déjà au Parlement. Nous sommes une institution, le Parlement. La Chambre basse est déjà saisie de ce problème. J'ose espérer que certains aspects ont déjà été épinglés, parce que j'ai cru comprendre que certains enseignants ont pris part aux discussions des budgets au niveau de la Commission économico-financière de la Chambre basse.
Oui.
Je suppose que certains éléments ont déjà été épinglés à ce niveau-là. Ça, c'est pour l'aspect rémunération, le salaire des professeurs. Mais ils n'ont pas que cet élément-là, ils ont bien défini le problème en disant qu'ils veulent une considération à leur métier, considération à leur fonction. Et ils veulent un statut en plus du problème de salaire. J'estime que c'est légitime.
Donc, pour vous résumer, ça veut dire que vous estimez que cette grève, en fait, n'est pas sauvage, en fait.
Bon, moi, je ne dis pas que la grève est sauvage. Je dis que la grève, tel que le problème est posé, je ne fais pas allusion à la durée de la grève. Je parle de la grève comme telle. Ça pouvait être une heure de temps, ça pouvait être deux heures ou trois heures, mais c'est une façon d'exprimer son mécontentement. Elle doit être encadrée et disciplinée et responsable.
Merci beaucoup. On va d'abord demander au professeur Albert Kabamba. Professeur, est-ce que votre grève est encadrée, comme le souhaite le sénateur? Parce qu'elle est disciplinée, elle n'est pas sauvage.
Oui, bonsoir sénateur. Je suis vraiment très content de vous entendre parler. Oh. Et vous nous renforcez un peu dans cette opinion-là. Et je vous remercie beaucoup de cette opinion.
Allez-y, répondez à la question.
Notre grève est encadrée. Et à chaque fois que nous évoluons, nous disons, nous allons évaluer le processus de notre grève. Nous avons fixé la grève tout d'abord pour s'arrêter au 10 décembre. Et nous sommes réunis avant-hier. Le 10 décembre, nous avons décidé de continuer notre grève. Pourquoi est-ce que nous avons continué notre grève? Tout simplement, nous attendons des signaux positifs. Je viens d'entendre l'honorable sénateur en parler en disant que le problème est déjà arrivé à la chambre basse.
Oui.
Ça arrivera.
Oui, justement, c'est la question déjà que pose Farouk Matofali, auditeur de Goma au Nord Kivu. Il dit, mais certains de vos délégués ont même participé à l'amélioration du budget dans la commission économico-financière à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi vous continuez malgré cela à observer la grève?
Oui, tout à fait d'accord. On nous a associés à ce travail de la commission financière, économique et financière de l'Assemblée nationale qui s'est tenue en Gaza pendant presque 6 jours. Bon, notre contribution, nous l'avons donnée à la commission. C'est-à-dire, c'était quoi? En tant qu'expert, faire en sorte qu'on peut revisiter pratiquement le budget 2008. Et surtout que, à partir du gouvernement, on avait reconduit le budget 2007. C'est-à-dire que, pour 2008, le gouvernement a décidé de ne pas augmenter les rémunérations. Donc, ça devait être statique.
Est-ce que vous êtes satisfait ou pas, après avoir participé aux travaux de la commission économico-financière? Est-ce que vous êtes satisfait? Parce que si vous poursuivez la grève, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi vous poursuivez la grève?
Bon, nous poursuivons la grève, nous attendons ce que nous avons remarqué au niveau de la commission se concrétise réellement pendant ces quelques jours. D'autant plus que d'ici peu, il y a la plénière, la discussion en plénière. Et aujourd'hui, j'ai assisté à une séance de la commission, de la sous-commission, qui donnait les résultats de ces travaux-là. Et j'ai cru entendre qu'il y avait des recettes que nous avons pu obtenir ensemble au niveau de ces travaux. Et ces recettes, je suppose que vont contribuer à l'amélioration des conditions des professeurs.
Mais déjà, votre mouvement ne semble pas être suivi. Apparemment, c'est uniquement au niveau de Kinshasa, parce qu'à l'université de Kisangani et l'université de Lubumbashi, il est dit normalement.
Bon, je vous dis que nous avons eu du courrier entre nous. C'est-à-dire, au niveau de Kisangani, effectivement, ils continuent à étudier. On ne peut pas dire qu'ils sont plus responsables que les gens de Kinshasa. Non. Ça dépend de l'environnement là où ils se situent. Ils ont tenu à ce qu'ils terminent d'abord l'année académique 2007 parce qu'ils sont vraiment fort en retard. Alors, dès qu'ils terminent l'année académique, ils vont voir s'ils vont entrer en grève au cas où ils n'étaient pas satisfaits. Pour le cas de Lubumbashi, la délégation était venue ici à Kinshasa. Nous a donné mandat pour poursuivre nos démarches. Ils avaient un autre problème à leur niveau. C'était au niveau des frais d'études. Paraît-il, ce qui se passe ici à Kinshasa, bon, les parents donnent ou bien les étudiants payent et ça s'est reparti entre le comité de gestion et les partenaires sociaux.
Ouais.
Mais il se fait qu'à Lubumbashi, paraît-il, c'est géré autrement. Alors ils sont entrés en grève à cause de ça aussi. Bon, maintenant, paraît-il, ils commencent à trouver une issue favorable pour qu'ils participent à la gestion de ces frais-là. Alors, pour montrer la bonne volonté, ils ont arrêté hier. Jusqu'au 31 janvier. Et si le 31 janvier rien n'était fait, alors il rentre en grève.
Et vous avez donc l'impression que vous êtes quand même suivi?
Ah, nous sommes suivis. Nous sommes suivis.
Deuxième partie de ce dialogue entre Congolais consacré à la poursuite de la grève à l'enseignement supérieur et universitaire. Quelles solutions préconiser pour mettre fin à cette situation? Nous vous retrouvons tout de suite avec nos invités, le professeur Albert Kabamba, président de la dynamique du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire, de l'enseignement universitaire, voilà, et Patrice Ezati Mereko, sénateur PPRD, vice-président de la commission économico-financière au Sénat.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8999-222.
Poursuite de la grève à l'enseignement supérieur et universitaire, quelle solution préconiser pour mettre fin à cette situation? Le professeur Bonaventure Bibombé, vice-président du conseil d'administration des universités, renvoie la balle au Parlement pour régler leurs problèmes. On l'écoute. Il était joint par Anselme Sissimoumbéré.
La solution se trouve entre les mains de l'autorité budgétaire qui est le Parlement. À l'heure actuelle, c'est le Parlement qui peut déboucher, qui peut dégager de différents chapitres les moyens pour allonger, augmenter l'autre côté. N'oubliez pas qu'il y en a qui, dans le même budget, qui ont un traitement scandaleux. Le traitement de l'exécutif et même du parlementaire est scandaleux par rapport aux ministres qu'on réserve aux professeurs. Voilà, c'est ce qu'ils fassent. Alors il faut que le parlement, qui est le conseil budgétaire, recherche dans toutes les casseroles qu'il a pour dégager des moyens supplémentaires et compléter.
Sénateur Patrice Ezati Mérico, vous êtes sénateur du PPRD. Alors, qu'est-ce que vous dites d'après le professeur Bonaventure Bibombé? C'est vous qui avez la clé de la solution au problème des professeurs d'université. Qu'est-ce que vous répondez?
Je réponds tout simplement ceci. Certes, le Parlement est une autorité budgétaire. Mais néanmoins, le budget d'un pays comme le nôtre, post-conflit, ne doit pas être établi n'importe comment. Ce budget doit répondre à certains critères. Il doit respecter le cadre macroéconomique qui est défini en rapport avec nos partenaires de la Banque mondiale et de la FMI. Donc, c'est l'autorité budgétaire ne créera pas de budget, ne fait pas additionnel n'importe comment. Ça doit répondre à certaines normes déjà établies dans des cadres d'équilibre budgétaire. Donc, s'il y a certaines dépenses, si certaines recettes additionnelles qu'on va dégager, c'est au niveau peut-être des recettes additionnelles qu'on pourra voir dans quelle mesure on peut résoudre tant soit peu le problème des professeurs quand il est bien établi, bien cerné, comme viennent de faire les amis de mon collègue parlementaire de la Chambre basse. Donc c'est vrai, c'est la responsabilité de l'autorité budgétaire, mais ça ne doit pas se faire n'importe comment, ça doit se faire dans le cadre de respect des cadres macroéconomiques qui a été établi avant de concevoir le budget. Si le gouvernement avait pris la décision de ne pas augmenter l'émulation d'une manière générale, c'est suite à cette contrainte budgétaire, justement, des cadres macroéconomiques. Si nous créons les cadres, on ne saura plus faire un budget équilibré qui correspondrait. Nous sommes en train d'évoluer vers le point d'achèvement pour effacer les dettes du pays. S'il y a des contraintes que nous devons observer, sinon on n'y arrivera pas. Voilà que dans ce cadre, tout doit se faire dans une certaine coordination, dans une certaine harmonie, et pour atteindre l'objectif du point d'achèvement budgétaire.
Oui, mais on vous entend parler, sénateur Patrice Ezati Mérico, ce budget au niveau du Parlement, en fait, risque de rester le même que celui envoyé par le gouvernement.
Mais je vous ai dit qu'il y a un cadre qui a été défini pour établir le budget. Il y a un cadre qu'on doit respecter, parce que nous sommes en problème avec les institutions de Bretton Woods. Nous devons respecter ce cadre-là.
Est-ce que vous ne pouvez pas corriger, peut-être, certaines disparités salariales, pourquoi pas?
Au niveau des coupes internes, dans les rubriques internes des budgets, ça peut se faire d'une manière générale, on ne peut pas crever les limites qui ont été arrêtées. Ça doit se faire à l'intérieur. S'il y a possibilité de le faire, ça se fera, mais tout en respectant les cadres qui étaient arrêtés d'ici au départ.
Alors, professeur Albert Kabamba, quand vous entendez un tel discours venant du Parlement, est-ce que ça vous encourage?
Bon, ça nous encourage un peu, mais ça nous décourage également. Parce que lorsqu'on s'approche sur le problème de la Banque mondiale, sur le cadre de l'équilibre macroéconomique, ce problème peut être visualisé autrement. Mais pourquoi est-ce que dans le même budget, on peut augmenter certaines institutions? Nous avons vu, par exemple,
vous pensez à quoi?
Les magistrats, ça a été augmenté. Les médecins, ça a été augmenté. Mais là, on ne tient pas compte de cet équilibre. Et certaines institutions également ont vu leur rémunération augmenter.
Quelles institutions encore?
Bon, je prends le Parlement. Mais pour l'état de Parlement et des autres, moi j'ai toujours dit, et c'est le cas de le dire parmi les collègues, ça a été une très bonne chose de valoriser la fonction politique de parlementaire. Mais dans le même cas, il faudrait valoriser également la fonction enseignante de l'élite congolaise. C'est ça, ça va de soi, il ne faut pas avoir honte de le dire. Moi, j'ai soutenu cette augmentation au niveau du Parlement. Pour que ces gens ne soient pas tentés à faire autre chose, qu'ils soient vraiment à l'aise pour décider. Ce sont eux qui font les lois. Mais de l'autre côté, ils doivent songer qu'il y a l'élite aussi. On ne peut pas donner, par exemple, donner des rémunérations à certaines catégories inférieures et laisser les autres qui peuvent avoir un peu plus.
Oui, mais pour
ça, c'est l'injustice même.
Oui, oui, mais professeur, vous avez suivi le sénateur Patrice Ezati. Il vous dit qu'il faut quand même que le gouvernement respecte même le Parlement. Ils devront respecter les critères tracés par les bailleurs de fonds, notamment le Fonds monétaire international, pour ne pas déranger ce budget et que ça crée des problèmes. Donc, un peu pour dire que finalement, ça serait peut-être difficile de créer d'autres charges, d'autres dépenses.
Oui, tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais le point d'achèvement consiste tout le temps. On a commencé depuis longtemps avec la transition. C'est comme une maman qui montre un bonbon à un enfant et qui recule tout le temps avec ce bonbon-là. L'enfant est en train de suivre. Et on n'atteint pas ce point d'achèvement. On nous dit que peut-être ce sera cette année-ci. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on atteigne ce point-là et qu'on soit libre de mouvement. Mais on peut chercher d'autres moyens ailleurs, sans tenir compte de la Banque mondiale ou bien de son monétaire. Le cas qui nous préoccupe pour le moment, il y a la Chine qui a dû nous donner des milliards. Effectivement, ça c'est pour les...
Qui a promis.
Non, ça va être fait. J'ai entendu le discours du président.
Je ne dis pas, mais je dis seulement que la Chine a promis, n'a pas encore donné.
Non, c'est en voie. Okay. Ce sont des projets vraiment réalistes. Et je crois qu'ils n'ont pas eu tort de s'adresser à ces gens-là également.
Si on vous comprend, de la même manière, il faut que le gouvernement demande aussi à la Chine de penser aux professeurs que vous êtes.
Non, pas nécessairement. Ça dit que les milliards qui viennent de la Chine vont s'occuper des routes, des infrastructures, ainsi de suite. Mais dans le pays, il y avait de l'argent qui était prévu également pour ces routes, ainsi de suite. Voilà, on peut peut-être à ce moment-là équilibrer. Parce que nous amenons des capitaux étrangers pour le même boulot, le même type de boulot. On peut également équilibrer. Et il n'y a pas seulement la Chine. Il y a l'Égypte, il y a le Portugal, ainsi de suite. Et je félicite, et puis je dis que le gouvernement, ou bien le président de la République, ou bien la présidence, doit continuer sur cette voie-là, pour qu'on soit libre.
Oui, mais concrètement, professeur, parce que vous parlez de la Chine, finalement, et d'autres bailleurs comme l'Égypte, est-ce qu'il faut attendre ces bailleurs-là pour que vous leviez la grève, ou finalement, qu'est-ce qu'il faut pour que vous retourniez dans les facultés, dans les auditoires?
Non, nous avons fixé la date du 18. C'est parce que nous voyons que nous sommes sur une bonne voie.
Une bonne voie, mais avec...
Le fait d'avoir travaillé au niveau de l'Ecofin avec...
Oui, mais avec quel argent? Parce que vous dites qu'il faut que ça...
On nous dit que nous avons dégagé de recettes. Et parmi les recettes, il y a une rétribution que je peux vous donner.
Allez-y.
Pour les 140 millions. Bon, enfin, ça, ce n'est pas un secret. Bon, il y a 60 milliards qu'on a dégagés pour... 60 milliards de recettes dégagées pour les rémunérations.
Vous les avez pris où, dans ce budget?
Non, c'était des coupes et des recettes venant de Déjarade, de DGI, ainsi de suite. Et puis les coupes que nous avons remarquées également.
Oui. Alors, sénateur Patrice Ezati Mereko, est-ce que c'est faisable avec les coupes? Parce que vous avez dit qu'il faut respecter l'élaboration du budget, mais le professeur vous dit qu'avec des coupes internes, de l'argent qui peut venir aussi de la Déjarade notamment, de régie financière...
Des recettes additionnelles. Hein.
Des recettes additionnelles, voilà, que c'est possible d'améliorer le salaire des professeurs. Qu'est-ce que vous en dites?
Moi, je crois que je vous ai dit que les coupes internes pour dans une ou autre rubrique, sans pour autant que cela ne dérange les cadres global du budget, sont faisables.
Et les coupes internes, comment vous pouvez expliquer ça simplement aux auditeurs?
Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez pris l'exemple des parlementaires. Vous avez dit, bon, écoutez, on a pris, par exemple, pour les députés, 10 milliards, par exemple.
Oui.
Et que de l'autre côté, pour affaires sociales, il y a, par exemple, 1 milliard. Mais les 10 milliards qui ont été intégrés au niveau du Parlement, ou 1 milliard au niveau d'affaires sociales, sur le plan global, respectent l'équilibre des budgets. Mais lorsque vous prenez c'est 10 milliards de parlement et vous prenez 3 ou 2, vous donnez affaires sociales. Mais vous restez dans l'équilibre.
Est-ce que vous
avez le couple interne?
Oui. Est-ce que le sénateur Patrice Zatti-Mérico serait prêt d'accepter, par exemple, que son salaire subisse une coupe pour que ça soit affecté aux professeurs d'université?
Vous me posez la question de savoir si je peux accepter qu'on fasse une coupe sur mon salaire pour donner aux professeurs d'université.
Oui.
Mais ce n'est pas. Moi, je ne suis pas une institution.
Non, vous êtes un membre d'une institution, justement.
Oui, moi, je suis un membre d'une institution.
Oui, en tant que membre, justement.
Mais si je vous dis que quelqu'un des échos que nous avons reçus de l'exécutif, les émoluments des parlementaires ne subiraient aucune augmentation.
Bon, ça ne va pas subir.
C'est l'information qu'on a reçue.
Oui, mais.
Nous n'avons pas encore vu le budget, on ne peut pas en parler, et nous tous ce qu'on a fait comme des coupes.
Oui.
Je viens de réaliser que lorsque l'autorité budgétaire sera exprimée,
oui,
on a voté le budget.
Oui, donc,
on n'a encore rien voté.
Oui, mais
donc tout ça, ce sont des propositions.
Oui, justement, nous sommes dans les propositions. Au lieu d'avoir ce que vous touchez déjà, hein, environ 4 000 $, est-ce que vous pouvez accepter qu'on réduise à 2 000, par exemple, et les autres 2 000, on attribue ça aux professeurs d'université? Est-ce que vous pouvez accepter, vous?
Mais, écoutez, prendre les professeurs sur cet angle-là, c'est trop simpliste. Nous sommes un pays responsable. Nous avons des institutions responsables. On ne peut pas procéder de cette façon-là. Vous savez que le secret de tout ceci, c'est le travail. Vous êtes d'accord avec moi?
Allez-y, sénateur.
Le secret de tout ceci, c'est le travail. Nous, il faut d'abord qu'on se mette en tête qu'on travaille. Lorsqu'on va beaucoup travailler, on va avoir beaucoup de recettes. Et on va produire, et c'est alors qu'on pourra payer tout le monde comme il se doit. Nous sommes dans un processus.
Mais pourquoi vous ne pouvez pas accepter que, comme il n'y en a pas assez, bon, c'est d'ailleurs, je me souviens, c'est ce que le président de l'Assemblée nationale avait dit, s'il y en a beaucoup, tout le monde va en bénéficier, s'il y en a peu, il faut que tout le monde, justement, se serve avec un peu. Pourquoi vous voulez... Pourquoi vous voulez avoir...
Pourquoi macroéconomique, c'est ce qui se fait maintenant.
Bon.
Tout le monde est en période de sacrifice.
Ah bon?
Oui, tout le monde est en période de sacrifice. Si vous comparez les conditions de gens que vous prêtez aujourd'hui comme touchant gros avec d'autres pays, avec leurs semblables d'autres pays, tout le monde est en sacrifice.
Oui, alors réagissez un peu à...
Tout est relatif là.
Oui, c'est la sœur. Réagissez un peu à André Yam de Lubumbashi au Katanga.
Oui.
Lui, justement, en rapport un peu avec les coupes, il dit que le gouvernement, il doit trouver des solutions définitives des salaires des professeurs. Au lieu de faire semblant, selon lui, le gouvernement alloue des millions de francs congolais pour des cartes prépayées des ministres. Mais pour les professeurs, il dit qu'il n'a pas d'argent. Comment vous réagissez à cela?
Moi, je ne suis pas ministre. Je ne peux pas affirmer que les ministres ont des cartes prépayées.
Dans le budget, hein, ça c'est ce que dit l'auditeur. Hein.
Non, oui, c'est ça, je ne sais pas. Je ne peux pas affirmer que les ministres ont des cartes prépayées. Parce que je ne suis pas ministre. Je l'ai été, mais je ne le suis plus pour le moment.
Mais vous pensez qu'aussi c'est le cas et on peut améliorer cette situation?
Mais ça, c'est un aspect de problème. On peut prendre plusieurs exemples comme ça,
oui,
de ce qui ne va pas. Nous sommes en train de. D'abord, il y a des reconstructions mentales,
oui,
du peuple congolais que nous sommes en train de travailler aussi.
Oui, oui. Et,
il faut commencer par la reconstruction mentale.
Oui.
Ça, ce sont des. Parfois, les gens avancent des choses sans preuve.
Oui, c'est sénateur, puisque nous sommes dans les solutions hein, qu'il
oui.
faut pour régler cette question de grève des professeurs d'université et même la situation même des universités en général en RDC, est-ce que vous avez l'impression, vous, que les universités publiques ont peut-être un problème de gestion, souffrent peut-être d'un problème de gestion?
Bon, la gestion au niveau des animateurs des universités.
Et est-ce que vous pensez que les universités sont, telles qu'elles sont, les universités publiques sont bien gérées pour arriver à donner un bon salaire? Vous pensez qu'elles sont bien gérées, d'après vous, quand vous les observez?
Moi, je crois que le problème de salaire, c'est un problème de principe. C'est pas en fonction d'une institution ou d'une d'un organisme, c'est un problème de principe.
Oui.
Que le juste et une digne salariale au pays. S'il faut la revoir, qu'on puisse la revoir, le professeur venait de me dire qu'on a revu, pardon, pour le magistrat. Si tel était le cas pour le magistrat, peut-être prochainement ce sera le cas des professeurs.
Oui.
Oui. Autre des cas, ce sera le cas des professeurs. Comme je n'ai pas encore vu le budget 2008 au niveau du Sénat, je ne sais pas avancer un chiffre quelconque. C'est pour cela que j'avais dit, si cette émission avait eu lieu, après que nous ayons vu tous les budgets, on aurait des choses beaucoup plus concrètes à dire.
Merci, sénateur. Professeur Albert Kabamba, les professeurs, en fait, on constate quand même que c'est vous qui êtes l'élite. Hein, vous êtes toujours dans les cabinets ministériels, c'est depuis la Deuxième République. Est-ce que il vous est arrivé, vous, en tant que professeur, de proposer aussi certaines initiatives au gouvernement pour améliorer, par exemple, la gestion des universités, pourquoi pas ouvrir, par exemple, le capital des universités au privé? Est-ce que ça peut pas aller dans ce sens-là aussi?
Oui, on a déjà essayé, déjà l'association des professeurs universitaires.
Approchez-vous du micro, professeur, allez-y.
Oui, l'association que je dirige en 1990, je donne ça à titre d'histoire. L'université était fermée complètement. Nous avons chômé pendant toute une année. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons décidé nous-mêmes en disant qu'on allait privatiser l'université. Soit on se retournait vers le capital des privés. Et c'était le départ du partenariat que vous connaissez maintenant dans tous les établissements. Donc, faire intervenir les partenaires sociaux, donc les parents, pour payer les études et payer les professeurs.
Oui, à part les parents, parce que déjà, la plupart, quand même, n'ont pas un bon salaire. À part les parents, est-ce que vous ne pensez même pas, par exemple, à toutes ces sociétés privées? Est-ce que ce n'est pas faisable? Est-ce que vous avez déjà proposé ça au gouvernement?
C'est faisable. Même dans la loi cadre, c'est faisable. Les entreprises, tout ceci, font partie de ce que nous appelons les partenaires du système éducatif.
On va revenir à vous, professeur. Nous prenons d'abord les réactions des auditeurs avec Anselme Sitimombéré. Bonsoir, Anselme.
Bonsoir, Jean-Claude. Albert Omba de Ndjilia Kinshasa préconise l'application du statut d'enseignement supérieur et universitaire qui réglemente ce secteur depuis les années 70. Baudouin Kassongo à Inongo au Bandundu déplore le fait que les enseignants exploitent les étudiants en exigeant le paiement des syllabus comme une des conditions pour passer des classes. Joël Mumbi de Kolwezi pense que cette question devrait être réglée après la grève des anciens de l'école primaire, car gouverner, dit-il, c'est prévoir. Dudo Kevela de Kamina au Katanga se demande à quand la fin de la grève à l'UNIKIN, car leurs collègues de l'Université de Lubumbashi ont suspendu la grève. Enfin, Junior Fakandoumbo de Bouna, la province orientale, estime que cette grève occasionne parfois la fuite de nos professeurs à l'étranger.
Merci beaucoup, Anselme. Nous commençons par vous, professeur Albert Kabamba, président de la dynamique du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. À quand la fin de la grève à l'UNIKIN, à l'Université de Kinshasa? C'est la question de Dieudo Kiombela de Kamina au Katanga, car il dit que vos collègues de l'Université de Lubumbashi ont suspendu la grève.
Lorsqu'on fait une grève, on a un objectif. Et cet objectif n'est pas encore atteint. Nous avons un peu de lueur positive qui pointe à l'horizon. C'est pourquoi nous avons fixé l'étape du 19 et du 18 décembre pour évaluer par après, pour voir si nous pouvons continuer ou pas. Ceci provient du fait que nous avons participé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale.
Oui,
ça nous a donné quand même un peu d'espoir. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé là-bas, nous avons eu des recettes additionnelles, et nous pensons que parmi ces recettes additionnelles, il y a une partie qui iront vers l'amélioration des conditions des professeurs.
Et pourquoi vous dites que vous attendez le 18
tout décembre? Tout à fait. Nous attendons quand même des signaux forts de la part du gouvernement.
Alors, une autre question qui vous concerne aussi, elle vient de Baudouin Kassongo, il nous écrit depuis Inongo au Bandundu. Il déplore le fait que les enseignants que vous êtes, vous exploitez les étudiants en exigeant le paiement des syllabus comme l'une des conditions pour passer de promotion. Donc, qu'est-ce que vous répondez, professeur?
Bon, il ne faut pas généraliser le problème. Faire passer les étudiants sur base de syllabus. Je vous donne le cas de là où je suis en train de...
Vous voulez dire que ce n'est pas une réalité?
Ce n'est pas une réalité qu'on peut généraliser.
Donc, vous reconnaissez quand même que certains professeurs le font?
Bon, il se pourrait, mais je n'ai jamais vu le cas officiellement. Hein. Ça peut se faire en cachette. Lorsque vous êtes dans un établissement comme l'UNIKIN, à la faculté de sciences là où j'enseigne, et vous avez une réussite, disons, les proportions de réussite de 15%, les syllabus n'ont rien servi pratiquement. Je vous donne le cas de cette année-ci. Lorsque vous êtes dans une promotion, il n'y a que 4 personnes sur 40, par exemple, qui passent en première session et qui attendent la deuxième session. Et les syllabus font quoi à ce moment-là? Rien du tout. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans certains établissements, moi, j'ai toujours condamné certains collègues le fait de laisser parfois leur cours au corps scientifique, leurs collaborateurs.
C'est le cas, parce que vous avez des cours maintenant dans plusieurs universités, et ça devient presque difficile de vous avoir dans le même auditoire, en fait.
Non, pas nécessairement. Ça veut dire que ça, c'est un problème qu'il faudrait décourager, de toute façon. C'est à cause de ça que nous sommes en train de nous battre pour avoir cette rémunération. On va terminer ce système d'aller courir par-ci, par-là. Avons perdu beaucoup de collègues à cause du fait d'aller n'importe où, et on a eu des morts en quantité pour le moment.
Oui, on va prendre une autre question. Elle vient de Junior Mpaka Ndumbu de Bounia dans la province orientale. Il estime que cette grève des professeurs d'université occasionne parfois la fuite des professeurs à l'étranger. Vous êtes de cet avis, sénateur Patrice Ezati Mereko?
C'est pas évident que la grève ou cette situation de maltraitance de professeurs pousse le professeur à s'exiler. Tout est question de conscience et de degré d'amour de son pays. Il y en a qui s'expriment très bien dans ce pays, qui savent comment mener leur carrière. Mais ce n'est pas la cause pour que le professeur s'exile.
Ok. Et nous prenons une autre question, c'est la dernière pour cette série. Albert Omba, d'Ngili à Kinshasa, lui, il préconise l'application du statut de l'enseignement supérieur et universitaire qui réglemente ce secteur depuis les années 77. Professeur Albert Kabamba, vous êtes de cet avis?
Oui, je suis de cet avis. Je crois que depuis un mois ou bien deux mois, avec l'arrivée du nouveau ministre de tutelle, actuel de l'enseignement supérieur. Et en plus là, le président de l'Assemblée nationale a pris la relève. A pris le relais et tape un peu plus fort pour dire que les professeurs doivent avoir un statut particulier. Et ils l'ont depuis 1981. C'est une confusion qui s'est produite au niveau du gouvernement, à tel point que le ministre de la fonction publique empiétait un peu sur le ministère de l'enseignement supérieur. Sinon, ce statut-là existe et a été promulgué depuis 1981.
Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant, parce que nous sommes presque vers la fin de cette émission, qu'est-ce qu'on peut dire à tous les étudiants qui vous suivent, parce que vous avez suivi dans cette émission le son de cet étudiant de l'Université de Kinshasa, déjà qui craint pour... il a dit presque que le calendrier académique ne va plus être respecté. C'est déjà un problème au niveau de l'Université de Kinshasa. On n'avait toujours pas le calendrier normal.
Oui, mais pour le cas de la grève, nous avons une réunion le 10 décembre. Ça a été débattu sérieusement concernant ce calendrier-là. Et surtout qu'on avait fixé la date du 31 décembre comme une date limite pour ceux qui n'ont pas encore terminé les cours, qu'on déclare l'année blanche pour ces étudiants-là. Et nous sommes conscients, nous sommes des parents. Et c'est pourquoi nous demandons au gouvernement de se pencher également sur ce problème-là. Nous avons dit, si c'est possible, il y a des signaux positifs, le 18, nous rentrons, sans problème. Et nous avons discuté nous-mêmes, nous avons vu les moyens, les conditions pour aller très vite et terminer l'année sans problème. Il suffit que le gouvernement arrange le problème et nous-mêmes, nous allons prendre les choses en main pour contrôler la façon de travailler de nos collègues.
Merci. On va terminer par le sénateur Patrice Ezati Mereko du PPRD. Sénateur, est-ce que vous pensez que le gouvernement est à mesure de faire un geste, ne serait-ce qu'au niveau des coupes, pour encourager les professeurs à reprendre les cours? En 30 secondes, professeur. Plutôt, sénateur Patrice Ezati.
Oui, pour conclure, tel que la Chambre basse a déjà été saisie de problèmes, ils ont eu à les traiter. Je pense qu'ils ont pu épingler certains aspects de préoccupation des professeurs dans les coupes dans le budget et éventuellement en trouvant des recettes additionnelles. Nous verrons le problème de très près lorsque le budget sera à notre niveau, au niveau des Sénats, pour que nous puissions voir dans une certaine mesure, nous pouvons à soulager tant soit peu les problèmes des enseignants à travers le budget 2008.
Merci beaucoup, sénateur. C'est avec vous que nous mettons fin à ce dialogue entre Congolais. Au nom de toute l'équipe, Mimi Kindou à la mise en onde, Nadine Poula à la réalisation et Anselme Sissi Mumbere à la préparation de l'émission. Moi, c'est Jean-Claude Toumba Kamanga. Je vous dis merci à tous de nous avoir suivis. Thank you.